Hello les distordus, ici Seb de Distorsion. Avant de commencer, on veut vous parler de la nouvelle saison de Hanté, un balado de fiction d'histoires paranormales réalisé par nos amis de Transistor qui vient tout juste de sortir.
La série est très immersive et nous fait vivre les événements comme si on y était. La région de l'Outaouais regorge de phénomènes étranges. Alors que la première saison était concentrée sur des histoires paranormales du vieux Elmer, cette saison-ci, l'équipe explore la région du Pontiac et son allure de Far West.
Si vous aimez Distorsion, vous allez assurément aimer Hanté. Les deux saisons sont maintenant disponibles sur la plateforme de Radio-Canada Audio, juste à temps pour la saison de l'horreur.
Et maintenant, bonne écoute! Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
des histoires étranges d'Halloween!
Lorsqu'on se met à fouiller les profondeurs de la littérature ou encore les recoins sombres du web,
c'est là que l'on trouve le côté le plus extrême de la nature humaine.
La mort nous rattrape partout, que ce soit au fond d'une ruelle sombre ou encore sur un forum de discussion obscure.
Et partout où la terreur se pointe, nous restons pas loin, nous, vos fidèles podcasteurs.
En cette saison d'Halloween, on en profite pour mettre en commun nos histoires les plus lugubres et terrifiantes.
Préparez-vous, voici les spéciales Halloween de Distorsion et Ars Moriendi.
Sébastien Lévesque et Simon Predge.
Hello!
Comment ça va?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Simon Predge. Ça va très bien. Simon, c'est un peu... on est content de te recevoir parce que tu es là depuis le début. Tu fais partie un peu de l'histoire de Distorsion.
Ben
tu es là vraiment depuis notre première année. Donc,
exact.
C'est pour ça que ça nous fait plaisir de poursuivre cette tradition-là. Comment tu trouves ça là, de refaire cet épisode-là chaque année comme ça, avec toujours des nouvelles histoires?
Ah, puis déjà, je suis là plus souvent que vous le pensez. Des fois, je me cache en dessous du lit pendant que vous enregistrez, mais ça, c'est une autre histoire.
Ah, c'est ça, les petits bruits.
Tu sais, on a parti nos podcasts quasiment en même temps.
Ouais.
On s'empile pas depuis le début qu'on est des amis, depuis le jour 1 qu'on aime ça, travailler ensemble, se voir. Nous autres,
on est allés
walker, nous autres, on est allés prendre des verres ensemble souvent. Mm-hmm. On est des amis, là. Fait que ça allait de soi que ça allait devenir une tradition.
Ah, bien sûr.
Oh, yes. Puis cette année encore, en fait, on garde le même concept. On a chacun choisi une histoire un peu thématique Halloween.
Évidemment.
Ça, c'est pas forcément toujours... Nos histoires se déroulent pas toujours le jour de l'Halloween.
Non,
c'est le cas de la mienne, par exemple. Oh. Mais bref, on ignore chacun les histoires des autres. Donc, ça fait partie du fun aussi d'en découvrir des nouvelles.
Oui, puis on aime ça aussi être traumatisé par Simon pendant quelques semaines après la lecture de ces histoires.
Oui, c'est ça. Généralement, on est traumatisé un peu avant aussi parce qu'il nous partage des photos, choses comme ça. Il nous tease, puis on réussit toujours à être traumatisé par la suite.
Oui. Pas si pire aujourd'hui.
Ah,
il y a quand même un petit élément éveillé, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis quand même tranquille.
Tu t'adoucis.
Mais on a découvert plusieurs histoires sordides grâce à toi là, au cours des dernières années, Simon, puis même nos auditeurs aussi. Là, souvent, c'est des épisodes qui restent, là, les spéciaux d'Halloween.
Oui.
Mais on dirait que, tu sais, on se rend pas fou avec ça. On essaie toujours de trouver une histoire qui va être meilleure que celle des autres. C'est pas pour, par compétition, mais on veut pas être l'histoire la moins aimée du show, on
dirait.
Non,
ah, c'est sûr.
Mais on s'en reparle pas après. C'est, comme je dis, c'est pas une compétition.
Non,
là,
non,
mais
pas
c'est,
du tout.
C'est qu'on veut surprendre. Je veux vous surprendre comme vous voulez me surprendre. Je pense qu'à la base, c'est normal. Puis là, au bout d'autant de spéciaux d'Halloween, on essaie de se réinventer, de trouver quelque chose de nouveau.
Non, mais t'as raison. C'est pas toujours évident de trouver des histoires au fil des Halloween parce qu'elles s'épurent, mais c'est pour ça que justement, on reste sur le thème et ça peut pas juste se dérouler en octobre.
Non, mais c'est sûr que la première fois, on a fait une recherche, on a écrit histoire Halloween.
Oui, c'est super,
mais là, on peut plus faire ça. Il n'y en a pas tant que ça à l'Halloween.
Non, exactement.
Faut chercher plus loin.
Ça risque d'être bien intéressant, guys, encore une fois, ce soir. Puis puisqu'on est un peu dans la thématique Halloween aussi, nous, on a une grosse annonce à faire, moi et Seb, parce qu'on lance un projet de bande dessinée, en fait, avec notre ami Ron, qui a collaboré à nos deux premiers livres. Donc, c'est une nouvelle aventure dans laquelle on s'est lancé.
Oui.
On en a parlé plusieurs années avec lui, avec Ron. On prend part à une édition, en fait, de la série de bande dessinée d'horreur Low Reader, en fait, qui est éditée chez le label 619 et sur rue de Sèvres, en France. Mm-hmm. Et avec Ron, on a fait la curation de trois histoires étranges de l'ère numérique, avec plein de textes accompagnateurs. C'est une bande dessinée d'environ 100 pages, du gros calibre, qui a été réalisée avec des duos d'artistes hallucinants. Donc, chaque histoire, trois histoires, c'est trois duos d'illustrateurs, scénaristes. Et même nous, on est dans la BD, ça.
Oui, exactement. Oui, on est des protagonistes, d'une certaine façon. Ouais.
Donc, c'est un secret qu'on vous cache depuis déjà plusieurs mois, quelques années même. Et sachez que, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode, mais le 25 octobre, en Europe, la BD devrait être en librairie. C'est le Low Reader spécial Distorsion. Vous allez voir, c'est hallucinant. C'est une BD d'horreur. Hein, donc, je vous avertis, c'est quand même des passages un petit peu difficiles.
Oui, quand même.
Et ce sera le 10 novembre dans les librairies du Québec et sans doute disponible en ligne là, sur les sites de vos librairies préférées. Donc, manquez pas ça. C'est une grosse nouvelle pour nous. Notre retour en livre, notre retour du côté de l'édition, mais dans un mode illustré, fantastique même, de fiction. Et Ron, encore une fois, a fait un travail incroyable.
Incroyable. Ron et ses collaborateurs.
Je t'ai toujours dit que vous étiez des cartoons, dans le fond.
Ah, exactement. en fait, c'est un peu un rêve de se retrouver en cartoon.
C'est clair. J'ai pogné de quoi, moi, quand Chronique de l'Abîme est sortie. On a quelques bandes dessinées avec nous dedans. Moi, j'avais 5 ans et mon rêve, c'était de faire de la bande dessinée, donc d'en devenir une à l'âge adulte. Je considère que c'est comme un rêve réalisé.
Ah, je comprends le trip.
Oui.
D'ailleurs, dans l'after show, Simon, on te garde avec nous pour nos abonnés Patreon. On veut partir un petit peu plus en dérap avec toi, parler de tes projets, creuser un peu plus. On sait que toi aussi, tu bourdonnes dans le monde de l'édition, de la bande dessinée, du livre.
J'ai aussi plein de blagues grivoises.
Oui, c'est ça. Donc, on se garde un after show après ce spécial Halloween pour parler sans censure ensemble, puis explorer d'autres petites avenues. Mais tout d'abord, Ars Moriendi, ton podcast, c'en est où? Je suis convaincu qu'il y a des nouveaux auditeurs, auditrices qui nous écoutent puis qui vont sans doute te découvrir parce qu'il y a tellement de jeunes maintenant qui découvrent les podcasts. C'est une renaissance un peu. Là. Comment ça se passe de ton côté, Ars Moriendi?
Je ne sais pas. Ça fait un an, j'en ai pas fait.
Déjà un an?
Ça fait un an. Mon dernier épisode, là, ça date, c'est 2022 parce que j'étais supposé en sortir un dernier en décembre, puis après ça me concentrer sur le livre, puis là même celui de décembre a débordé parce qu'il était trop de travail. Je peux le répéter, je l'avais déjà annoncé, il n'y a pas de secret.
Je me rappelle,
c'est un épisode sur Jim Jones et sa secte de Jonestown. C'est un sujet un petit peu trop riche finalement. Entre 17 à 20 pages, j'ai mon heure de podcast normalement, mais là j'en suis à la page 40 et j'ai pas terminé, donc là faut que j'apprenne à couper, à adapter ça, faut que je tranche, faut que je sélectionne. Mais bref, dès que le livre se termine, je suis en train de terminer l'introduction, la conclusion de mon livre. Dès le mois de novembre, je retourne à Jim Jones, puis je recommence à travailler là-dessus. Je prépare ma prochaine saison qui va arriver un moment donné cet hiver, je l'espère.
Donc 2024,
oui. Ouais, Jim Jones, j'aimerais ça que ce soit décembre, là, mais on va voir comment ça se passe. Je suis un peu brûlé de mon année, même si vous n'avez pas eu de podcast. Mais ça serait mon souhait le plus cher. Sinon, au plus tard janvier, c'est certain. Ars Moriendi va être de retour avec une nouvelle saison.
Donc, ben, à ceux qui se le demandaient, Simon n'est pas mort.
Yes. Puis ceux
en dedans, un peu. Là.
Puis pour les curieux, il y a plein de contenu d'Ars Moriendi qui est déjà là. En fait, des épisodes merveilleux. Ouais. Puis on vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil. Si vous découvrez ce podcast-là ce soir, c'est un incontournable, un des plus grands podcasts québécois.
Ah oui, absolument. Théâtral.
Mais c'est vrai. C'est super fin, merci, c'est gentil. Mais en même temps, c'est vrai que tu l'as dit. On dirait qu'il y a un regain de nouveaux auditeurs qui découvrent soit votre show, soit le mien. Mm-hmm. Puis je trouve ça bien le fun. On dirait que c'est... je sais pas si c'est une nouvelle vague, mais tu sais, il faut toujours considérer que l'épisode qu'on est en train de faire, c'est le premier épisode pour quelqu'un.
Ah oui.
Oui,
ça, je comprends. Ça, je trouve ça bien intéressant. Je trouve ça bien le fun. Puis là, les anciens sont jaloux. Ah, oh, c'est pas juste, tu découvres ça pour la première fois
vrai,
maintenant.
Oui,
ça. J'aimerais ça retrouver ça.
Oui, ou pouvoir binger plusieurs épisodes.
Ouais.
Yes. Donc, même concept que d'habitude, trois histoires, guys. On s'est organisé en avance. C'est quoi l'ordre déjà, Seb? Ça va être moi en premier?
Oui, j'ai pris l'ordre alphabétique de nos noms de famille.
Donc, oh là là.
Toi, premier, on est rendu moi là. Deuxième. Oui, c'est ça. Et Simon, on conclut avec, le plus macabre.
Yes. J'ai mis mon beau porte-chartel, c'est parfait.
Génial.
Mais avant toute chose, on n'a pas le choix de vous parler un peu de notre commanditaire et partenaire NordVPN, n'est-ce pas, Seb?
Commanditaire épeurant!
Oui! On n'a pas le choix parce que, faut le remercier. Puis dans un monde, Émile, où les spectres numériques sont omniprésents, la protection de nos données est primordiale. Et NordVPN est notre talisman contre ces esprits malveillants en ligne.
Absolument, Seb. Entre les menaces en ligne et les histoires effrayantes d'Halloween de Simon, je préfère les histoires de Simon, pour être franc, m'ayant moi-même fait pirater mes comptes à maintes reprises. Mais grâce à NordVPN, je peux naviguer en toute sécurité et pour ceux qui aiment voyager en se connectant à des pays différents, d'effrayantes bonnes affaires vous attendent.
Et pour nos auditeurs, avec notre lien, comme à l'habitude, nordvpn.com/distorsionvpn, vous obtenez une offre à faire frémir, une grande réduction et 4 mois gratuits. C'est presque aussi bon qu'un panier rempli de bonbons.
Puis j'en profite pour nommer d'autres avantages aussi. Par exemple, lorsqu'on voyage, on peut faire vraiment des grosses économies en se connectant sur nos pays de destination, sur des locations de voitures, des hôtels et autres. Puis aussi, c'est possible de se connecter sur des sites de nouvelles, des sites de contenu, comme si on était à la maison quand on voyage. Donc, on ne manque rien de ces séries télé. Et puis, on peut aussi aller explorer ce qui se passe dans les autres pays. Oui. Parfois, c'est différent d'un pays à l'autre.
Exact.
Puis avec la garantie de remboursement de 30 jours de NordVPN, il n'y a vraiment rien à craindre. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à affronter les frissons de cet épisode spécial Halloween?
Oh oui, madame!
Avec la tranquillité d'esprit offerte par NordVPN,
protégez vos morts pendant qu'il est encore temps.
Est-ce que, les gars, vous connaissez l'histoire de la mort inexpliquée d'Arpana Jinaga?
Ah non, ça me dit rien,
pas
moi.
Du tout. Non.
Non, vous allez voir, je la connaissais pas moi non plus, mais c'est une histoire assez terrifiante. Okay. Même, je mets un petit trigger warning.
Ouais, ouais.
C'est drôle que le tirage au sort m'ait fait commencer, mais c'est une histoire qui va être quand même assez difficile, je vous dis. Assez violente, même.
Ah oui.
Je vais vous parler un peu de cette femme, de Arpana Jinaga, mais aussi de sa venue aux États-Unis, parce qu'elle, elle vient de l'Inde. Et malheureusement, il lui est arrivé un épisode dans sa ville d'adoption vraiment tragique qui est toujours inexpliqué à ce jour. Donc, vous allez voir, et tout ça se déroule un soir et une nuit d'Halloween.
Okay.
Donc, rien n'est là pour adoucir le ton de cette histoire.
Oui.
Arpana B. Jinaga a grandi à Hyderabad, l'une des plus grandes villes de l'Inde. Elle était l'aînée de deux filles de ses parents, B.C. et Nirmala Jinaga, respectivement professeurs en génie informatique, et sa mère était femme au foyer. Alors qu'Arpana montrait une affinité pour l'art, l'écriture et même la gymnastique, dès son plus jeune âge, elle semblait destinée à suivre les traces de son père et à devenir une sorte de prodige de la technologie dans son adolescence. Donc c'était une petite fille qui adorait la technologie. En tant qu'adolescente, elle a participé à un concours de conception matérielle de l'IEEE qui lui a valu l'attention des universités et des employeurs potentiels et qui semblait la diriger tout droit vers le domaine de l'informatique. Sa sœur cadette, Pavitra, a commencé à suivre ses traces également et plus tard a poursuivi une carrière en génie informatique, donc après sa sœur. Arpana a déménagé à Redmond, dans l'État de Washington. Vous savez, c'est là que se trouve le siège de Microsoft.
Oui.
Au cours des premiers mois de 2008, Redmond, qui est une banlieue en périphérie de Seattle, oui, se trouve de l'autre côté du pittoresque lac Washington, puis est connu un peu comme une sorte de mec de la technologie.
Oui, oui, absolument.
Nintendo sont dans ce coin-là
oui,
aussi.
Oui, oui.
Elle a emménagé dans les appartements de Valley View, juste au nord du parc Marymore, le long du bloc 8900 de Redmond Woodinville Road. Et là, elle vivait dans l'appartement numéro 8946, au dernier étage du complexe. Bien qu'Arpana n'ait pas eu d'amis ou de famille dans la région, cela ne l'a pas empêché de s'intégrer dans la communauté. Et bientôt, elle a pu se constituer un cercle social autour d'elle grâce à sa personnalité enjouée et à sa volonté d'essayer tout au moins une fois. Éventuellement, elle a décidé de s'acheter une moto et malgré son expérience, elle avait prévu de l'utiliser comme principal moyen de transport. Malgré le fait qu'elle ne savait pas conduire une moto à l'époque, elle s'est acheté une Suzuki et a commencé à suivre des cours pour apprendre la conduite en toute sécurité. En plus de rejoindre un club de motocyclistes, Arpana a également fait du bénévolat au service d'incendie de Redmond, participant aux interventions en cas d'incendie dans la région. À l'âge de 24 ans, elle avait déjà vécu une vie pleine et enrichissante et semblait prête à laisser une empreinte positive sur le reste du monde. Elle avait tout pour elle, elle était jeune,
ouais.
Elle avait des bonnes études, une bonne carrière devant elle, elle refaisait sa vie aux États-Unis, mm-hmm. tout ça, donc tout était prêt pour elle pour un avenir brillant.
L'American Dream, hein, si je peux me permettre.
Oui, quelque ouais. part. On se transporte maintenant le soir d'Halloween 2008, donc le 31 octobre 2008. Et pour une des rares chances, cette année-là, ça tombait un vendredi. Ce jour-là...
J'ai eu peur que tu fasses le gag, ça tombe un vendredi 13.
Oh! Dans ce cas-là, c'est un 31. C'est pas l'Halloween, un vendredi 13. Mais au moment où on enregistre cet épisode, on
oui.
est un vendredi 13.
Ah, oui, par exemple.
On est le vendredi 13.
Ouais, donc on est à l'abri de rien à soir, les gars.
Hey, mais tu sais quoi, Émile?
Ouais.
Mon histoire se déroule au même moment que toi, la même date.
Mais c'est le pas... 31 octobre 2008?
Il ben, y a un événement majeur dans mon histoire. C'est oh. exactement cette date-là.
Oh, OK.
C'est,
intéressant.
Ah, oh, ben moi aussi de bord.
Oui, oui. Sinon, je pense qu'on va être plus en 1908.
Oui, c'est
ou, en 1800.
On s'en va des années 70. Ah,
mais, okay. Mais justement, vu qu'on ne connaît pas nos histoires, ça m'a comme surpris quand tu as nommé
ah,
la date. Hein? Oui, bref.
Et bon, ce jour-là, en fait, Arpana est allée travailler comme si c'était un jour de travail ordinaire, mais elle a parlé à certains de ses collègues d'une fête qui aurait lieu le soir dans son complexe d'appartements. Après avoir quitté le travail, elle s'est arrêtée dans un magasin pour acheter des décorations d'Halloween et a commencé à décorer son appartement alors que d'autres personnes commençaient à rentrer chez elle et à enfiler leurs costumes. Donc, c'est un peu une soirée où ils se disent, ben, dans le bloc appartement, on oui. ouvre toutes nos portes, on met de la musique, on sort des drinks, de la bouffe et autres, et puis les gens se baladent d'un appartement à l'autre.
Ils font ça dans ma ruelle.
Oui,
ça
ben
se
oui,
fait,
aussi,
ça se fait
oui.
de plus en plus dans les petits quartiers
oui,
de Montréal.
Exact, oui, c'est vrai.
Tout à fait. Cette nuit-là, Arpana et au moins trois de ses voisins ont ouvert leur appartement pour la fête qui s'est déplacée dans tout le complexe au fil des heures. Plus d'une douzaine de personnes sont passées par les nombreux appartements ce soir-là, y compris celui d'Arpana. La plupart des invités ont quitté l'appartement pour aller chez ses voisins peu après 21 heures. Mais il y avait beaucoup de mouvements cette soirée-là. Il n'y avait pas de moyen complet de déterminer qui était où et à quel moment. À un moment donné de la soirée, il a été rapporté qu'Arpana aurait eu une dispute verbale, une altercation avec un homme participant à la fête. Des témoins se souviendraient que cet incident serait lié à la race, entre guillemets. C'est ce que des témoins ont, okay. ont cité comme raison d'altercation. Probablement en raison de commentaires que l'homme aurait fait. Mm-hmm. Mais Arpana a rapidement pensé à autre chose et a semblé apprécier le reste de la fête. Et là, on se transporte à 3 heures du matin le 1er novembre, lorsque la fête d'Halloween dans l'appartement a commencé à se calmer. À ce moment-là, Arpana a commencé à retourner dans son appartement pour dormir. Elle a été vue pour la dernière fois par de nombreuses personnes quittant un autre appartement au premier étage, où la fête avait fini par se dérouler et se dirigeant vers son appartement à elle, qui est au troisième étage, donc le dernier étage du complexe. Bien que Arpana Jinaga n'ait pas été rentrée chez elle pour rendre visite à sa famille en Inde depuis plus de 2 ans, elle continuait à leur parler régulièrement au téléphone et avait discuté avec eux la veille de l'Halloween, donc le jeudi 30 octobre. Cependant, le week-end après la fête, Arpana ne répondrait à aucun de leurs appels et ne les rappellerait pas, ce qui était très inhabituel dans son cas.
Oui, oui.
Le lundi suivant, Arpana n'était toujours pas réapparue et elle ne s'était pas présentée au travail ce matin-là. Mohamed, l'un des collègues d'Arpana, qui travaille chez EMC à Bellevue, avait essayé de l'appeler, mais n'avait pas réussi à joindre son téléphone portable. En même temps, sa famille essayait désespérément de la contacter, n'ayant plus de nouvelles d'elle depuis le jeudi précédent. Finalement, ils ont contacté un ami de la famille, un certain J.B., un ancien élève du père d'Arpana en Inde, devenu depuis le professeur aux États-Unis, et lui ont demandé de vérifier la situation d'Arpana dans son appartement à Redmond. Jay est arrivé au complexe d'appartements vers 9h du matin et s'est dirigé vers l'appartement d'Arpana, à proximité duquel se trouvait un de ses voisins, que je vais surnommer C.J. Ensemble, ils ont décidé d'entrer dans l'appartement pour prendre de ses nouvelles. Mais lorsqu'ils ont frappé à la porte, elle s'est ouverte toute seule. Il est rapidement devenu évident que la porte menant à l'appartement avait été forcée et le montant de la porte là, sur le côté était brisé. Maintenant à l'intérieur, Jay et CJ ont pu constater que les choses étaient en désordre et ils ont rapidement balayé l'appartement avant de localiser le corps d'Arpana allongé sur le sol de sa chambre, déjà en état de décomposition.
Oh, OK, déjà?
Après cette découverte macabre, Jay a commencé à composer le 911. Les opérateurs ont demandé aux deux hommes de quitter l'appartement, mais de rester à proximité en attendant l'arrivée des enquêteurs. Vers environ 9h du matin, le 3 novembre, lorsque la police arrive, en fait, c'est la police de Redmond de l'État de Washington qui débarque, elle a été contactée par un individu les informant de la découverte d'un cadavre. Selon cet appelant, le corps avait été trouvé dans l'appartement juste au nord du parc Marymore, donc dans le complexe d'Arpana. Et cette région-là, en fait, Redmond, c'est une région où il y a très peu de crimes violents. Là. Bien
ah,
que,
oui,
il y a des vols à main armée parfois, des agressions sexuelles
oui,
ou
oui.
De la violence conjugale, le nombre est très faible par rapport à d'autres villes de taille similaire ou dans la même région.
C'est un quartier aisé, hein, donc...
Les décès suspects tels que les homicides sont très rares à Redmond, qui est en fait, comme tu dis, Seb, l'une des banlieues les plus aisées là, de Seattle. La police qui est appelée pour un décès, en fait, débarque. C'est assez surprenant, mais cette année-là, il y a eu, je crois, 2 autres meurtres seulement, donc vraiment pas beaucoup. Et quand la police arrive au complexe d'appartements, peu de temps, ils remarquent immédiatement des choses là, qui font pas de sens tout de suite, ou du moins qui sont très étranges. Premièrement, quelqu'un avait pénétré du 3e étage en défonçant la porte d'entrée, laissant derrière elle le cadre brisé. Deuxièmement, il y avait une odeur nauséabonde dans l'appart. On dirait qu'il y a eu l'utilisation là, limite exagérée d'agents de nettoyage chimique.
OK, c'est pas juste le corps, par exemple.
Non, c'est ça que j'allais dire. On parle pas de la décomposition.
Non, dans ce cas-là, c'était vraiment une odeur là, de détergent qui était très, très forte. Là.
Mais le corps est resté là. J'ai hâte de voir si tu t'en vas avec ça.
Oui. Et là, à l'intérieur, il est devenu évident pour les enquêteurs qu'une lutte avait eu lieu. Ils ont pu suivre là, la traînée de la tumulte dans tout l'appartement jusqu'au couloir en direction de la chambre de la défunte où ils ont découvert son corps. Par la suite, ils se sont retournés en fait, vers les voisins, ceux qui ont tenu la soirée dans
la fête,
avec
oui.
les autres. Et là, ils vont envoyer le corps pour une autopsie un petit peu plus minutieuse. Et des voisins des deux côtés de l'appartement d'Arpana se souviennent, c'est bizarre quand même, là, avoir entendu ce qui semblait être des rapports sexuels consensuels.
Ah oui.
C'est comme ça qu'ils ont décrit ça, se déroulant après la fête. Je ne sais pas au niveau sonore comment tu peux établir ça, que c'est consensuel.
Ben oui, c'est ça. Ça a l'air en tout cas bien insonorisé comme ben local, parce que arracher une porte d'entrée, c'est pas si facile et si bruyant.
Exact.
Mais tu sais, c'est vrai que tu peux le percevoir, tu l'entends, tu peux l'entendre là, pour avoir déjà entendu des gens. J'ai l'impression que tu peux quand même faire la nuance dans le ton. Tu sais, quelqu'un qui est un peu en détresse, il va peut-être crier à l'aide, il va peut-être dire non.
Mais en même temps, comment je sais qu'on n'est pas rendu, mais en même temps, comment t'expliques le bordel dans l'appartement? Je veux dire, c'est quand tu fous le bordel puis tu jettes des meubles à terre, ça sonne pas comme du consentement. Là. Ça commence à brasser plus. Là.
Si un policier me demandait la question, je dirais j'ai entendu des rapports sexuels. Je n'irais pas jusqu'à dire consensuel.
Oui, c'est ça.
Je peux aller vérifier.
Oui, exact.
Es-tu d'accord si je fais ça? Oui, je suis d'accord. Oh, ils ont l'air consentants à l'autre côté.
Ça se peut que la fille, avec un gun, s'attende à résister
moins. Oui, à l'abdique. Oui, je comprends.
Mais bref, je comprends un peu ce que tu veux dire, là, puis ce qu'eux voulaient dire aussi, mais il aurait entendu ce qui semblerait là, à des gémissements étouffés venant de son appartement là, peu après 3 heures du matin. Et là, on sait que c'est à peu près l'heure où elle est rentrée. Là, donc, presque comme si quelqu'un l'avait suivi quelques minutes après. L'un des voisins d'Arpana, un certain Kyle, a plus tard remarqué qu'aux environs de 8 heures du matin, il avait été réveillé là, par un horrible grognement qui aurait persisté pendant 20 secondes. C'est quand même long, 20 secondes non-stop.
Quelqu'un qui fait un gros
grognement et qui aurait été ponctué par un gros bruit sourd. Il avait ensuite entendu le son de l'eau qui coulait dans l'appartement pendant plusieurs minutes. Même voir une heure. Donc, une fois qu'il a entendu l'eau couler, il s'est dit « Ah, ben peut-être que quelqu'un est tombé puis prend une douche, je sais pas. » Donc, ça n'a pas éveillé ses soupçons à cause de ça. Mais c'est quand même bizarre. En plus de l'eau de Javel, les policiers là, ont noté que l'appartement sentait légèrement l'huile à moteur.
Hein?
Et là, on se rend compte qu'il y a de l'huile à moteur qui a été versée tout autour de la scène de crime, et en particulier là, dans la chambre, et autour et sur le corps d'Arpana. Et l'huile contribuait à l'odeur étrange là, dans tout l'appartement.
Oui.
Donc, c'est un mix d'huile à moteur, d'eau de Javel et de cadavres décomposés qu'ils avaient comme odeur.
Ouais.
Je dis pas ça parce que c'est le film que j'ai écouté hier soir, mais ma théorie, c'est que le tueur, c'est Christine, la voiture de Stephen King.
Ça se peut très bien, ce qui expliquerait l'huile à moteur.
Ça expliquerait l'huile à moteur dans le genre.
Voilà. Bon, mais merci.
Dans la benne à ordures... Ils ont fait des recherches dans les poubelles et tout. Puis dans la benne à ordures du complexe, ils ont trouvé une bouteille d'huile, là, Castrol, que l'auteur présumé du meurtre avait probablement trouvé à l'intérieur de l'appartement d'Arpana, parce qu'elle a une moto, donc peut-être que, bon,
c'est la raison
de ça.
Je comprends, oui.
Et en fait, la bouteille d'huile a été trouvée dans un sac en plastique qui contenait également le costume d'Halloween d'Arpana.
Okay.
Elle était déguisée en petit chaperon rouge, en fait, lors de cette soirée-là. Il y avait aussi un peignoir taché de sang et des draps de son lit qui manquaient là, de manière flagrante sur la scène de crime.
Okay.
À l'intérieur de la salle de bain d'Arpana, les enquêteurs ont trouvé une couette blanche de son lit qui avait été également tachée de sang. Elle trempait dans la baignoire dans un mélange d'eau et d'eau de Javel. Plusieurs autres objets trouvés à l'intérieur de l'appartement avaient également été brûlés par le meurtrier, notamment une couverture verte appartenant à Arpana. La cape rouge aussi qu'elle portait comme un costume d'Halloween et d'autres éléments de son costume, ainsi que des morceaux de moquette. Dans les semaines à venir, il a été rapporté que plusieurs objets avaient été envoyés au laboratoire de criminalistique de l'État de Washington, mais il a été estimé que cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, pour que les objets soient testés pour d'éventuelles preuves médico-légales. Il y a aussi, en fait, la moto d'Arpana était manquante cette journée-là.
Okay.
Donc, ils ont cru au départ que le motif était peut-être un vol,
oui.
mais par la suite, ils se sont rendus compte qu'elle avait amené au garage. Là,
ah, OK.
Donc, Donc, c'est pas en lien avec
OK,
avec,
c'est ça. Elle n'est pas disparue. Ils ont juste réalisé que c'était au garage par la suite.
Exact, c'est
okay,
ça.
OK, OK, OK.
Il y a eu une autopsie, évidemment, et l'autopsie a révélé qu'elle a été étranglée et asphyxiée à mort environ 2 jours avant la découverte de son corps. Cela signifie qu'elle avait été tuée dans la matinée du samedi 1er novembre, ce qui correspond un peu aux heures où ils ont entendu un bruit sourd là, vers 8 heures du matin.
Oui,
là.
Oui, oui.
Et en plus d'avoir été étranglée à mort parce qu'il semble être là, un lacet d'une bottine, Arpana avait subi d'autres blessures. Une poignée, elle avait reçu un coup, en fait, contondant à la tête et il y aurait eu une rupture de plusieurs de ses dents ce moment-là. Elle aurait été bâillonnée par ses propres sous-vêtements aussi, en plus de rubans adhésifs, puis violée de force pendant une durée indéterminée.
Mon Dieu.
Ils ont même trouvé, juste pour vous dire jusqu'où il est allé, là, des tampons, en fait, du matériel de d'hygiène féminine qui aurait été retiré d'elle avant le viol.
Okay.
Ils les ont trouvés autour. Donc, vous voyez à quel point...
J'arrive pas à comprendre comment les voisins ont pu entendre du consentement dans la description de la scène qu'on est en train de découvrir.
Exact.
Puis là, il y a eu... en fait, il y avait pulvérisé de l'huile à moto là, sur tout le corps de la jeune fille. Puis, en fait, on comprend pourquoi. C'est qu'ils ont tenté de la brûler. Mais de l'huile à moteur, ça ne brûle pas comme
non.
ça.
Non. Okay.
Donc, c'est une espèce de drôle...
D'équation qu'ils ont
fait. Oui, drôle d'équation que là où les coupables ont tenté. Là,
OK. Je pensais au début que c'était peut-être pour camoufler l'odeur. Ou je ne sais pas, ça avait quand même quelque chose d'enveloppant. Là, donc,
exact. Puis pendant, en fait, les 2 années qui ont suivi le meurtre là, tragique et choquant d'Arpana, les enquêteurs ont vraiment eu du mal à comprendre cette affaire, à trouver un motif, à trouver des suspects. Mais 2 ans plus tard, ils ont organisé une conférence de presse et ils ont annoncé l'arrestation d'un suspect, un certain Emmanuel Fair, également connu sous d'autres pseudonymes, en fait. Là. Lui, il avait 27 ans lorsque les accusations ont été portées contre lui en 2010, donc 2 ans plus tard. Bien qu'il soit relativement peu connu du grand public, c'est pas un étranger des forces de l'ordre. Hein. Il a déjà été arrêté plus d'une douzaine de fois. Il a déjà purgé des peines pour au moins 6 crimes, des crimes reliés à la drogue, aux armes à feu, des infractions sexuelles aussi. Donc, c'est quelqu'un qui avait un gros dossier criminel. Puis, après sa libération de prison en novembre 2006, Fair a entamé un processus de 3 ans d'alternance entre la prison et la situation de sans-abri. Cela incluait la période pendant laquelle Arpana a été assassinée. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit... le timing de temps pourrait fonctionner. Puis, en fait, la police a appris que Fair avait assisté à la même fête puis que même des témoins l'auraient vu parler avec Arpana. En plus d'avoir eu au moins une brève rencontre avec Arpana lors de la fête, la police a pu déterminer que Fair avait aussi passé du temps avec CJ, donc le voisin d'Arpana, qui a découvert le corps. Puis, à un certain moment donné, bien, ils se sont même partis ensemble et sont revenus à la fête un petit peu plus tard. Il a été identifié aussi grâce à des photographies de la soirée, des choses comme ça, et il a été interrogé. Il a déclaré avoir brièvement rencontré Arpana et avoir bien sympathisé avec elle, mais après, il dit qu'il ne s'est rien passé. Là.
OK.
Mais bon. Mais là, les procureurs, eux, ont décidé de porter des accusations pour le meurtre d'Arpana sur la base des preuves là, accumulées. Selon les enquêteurs, il y aurait même eu de l'ADN d'Emmanuel Fair retrouvé sur la scène du crime.
Ce que je me doutais.
Là. Exact. Sauf que tout ça, en fait, il y a eu beaucoup d'incohérences dans toute cette enquête-là. Mm-hmm. Puis Fair va être condamné, en fait, pour le meurtre d'Arpana. Mais il va être libéré 9 ans plus tard, en fait, second procès, parce que le doute raisonnable n'a jamais été démontré. Ah, donc, à ce jour, il n'y a plus aucun suspect dans l'histoire d'Arpana. Plusieurs meurtriers et violeurs en série étaient aussi dans la région à ce moment-là. Donc, il y a une pléthore de possibilités. Les internautes ont évoqué plein d'autres tueurs en série qui étaient dans la région ces mêmes années-là. Mais c'est dur après de trouver un suspect plus, autant impliqué que Emmanuel Fair. Oui, vu que c'est un ex-délinquant sexuel, il était à la fête, il avait parlé avec Arpana.
Mais, c'est souvent le cas aussi.
Oui, c'est ça. Sauf qu'ils ont réussi à le faire. Il y avait des bons avocats de la défense, en fait, parce qu'ils ont réussi à le faire libérer après 9 ans, justement parce que c'était surtout circonstanciel.
Oui.
L'ADN, la scène de crime, tout ça, ben peut-être qu'il avait serré la main, peut-être qu'il s'était passé autre chose.
Ah oui, OK, OK. Ouais. Il ne pouvait pas absolument prouver que c'était
exactement
à ce moment-là.
Donc, on est un peu dans une...
Mais s'il y a eu agression, ils ont pas... Je dis ça, je suis pas au courant de toute l'enquête.
Il ne semble pas avoir eu d'ADN retrouvé, mettons, sur elle, en fait. Là. C'est plus sur la scène de crime qu'il y a eu de l'ADN.
Mais je me demande si...
Mais en même temps, Fair... Excuse-moi de te couper, Fair, s'il a juste parlé à l'appartement, je serais vraiment curieux de savoir ce qu'ils ont trouvé de l'ADN, parce que... Il y aurait eu de l'ADN, quoi. Peut-être là, il a posé la main sur son épaule, sur sa main, son bras. Sinon, ils l'ont trouvé où, l'ADN? C'est ça que, moi, je pense que c'est ça qui ferait la différence, à savoir si je croirais fair ou non coupable.
Exact. Oui, exact. Mais quand tu as une relation intime, je sais pas si l'huile, ça efface ou... il y a quelque chose...
Il y avait peut-être un condom aussi.
Oui, exact.
On sait pas l'étendue.
Oui, c'est ça. Puis ça ne s'est pas défendu, là, bref. Oui.
Mais bref, c'est sans doute lui. C'est un peu, on est un peu dans cette situation-là où c'est sans doute lui, mais il n'y a pas assez de preuves vraiment évidentes pour le condamner. En plus, lui a évoqué beaucoup l'excuse du profilage racial, parce qu'apparemment qu'il était le seul individu de race noire dans le party. Mais bon, Arpana était quand même indienne.
Oui, c'est ça.
Il y avait d'autres gens de la diversité d'une certaine façon, mais quand même, grâce à tout ça, ils ont réussi à le faire sortir de prison après 9 ans. Puis lui, il se défend toujours d'avoir rien à voir avec ça. C'est possible aussi, on le sait pas.
C'est sûr.
Mais chose certaine, Arpana, qui avait déjà beaucoup d'accomplissements à l'âge de 24 ans, aurait pu continuer à changer le monde pour le mieux, pour cette jeune femme très prometteuse dans la vie. Mais au lieu de ça, ben, sa vie a été brutalement et soudainement interrompue le lendemain d'une fête d'Halloween, et personne n'est tenu responsable de cela.
Ah, c'est terrible. Triste, hein,
Yes, mon donc...
quelle histoire.
Une histoire, chers amis.
Wow! Ah non, c'est... c'est toujours triste, ça n'a pas de bon sens.
Ben oui, vous irez faire quelques recherches.
Ben oui, j'ai une
histoire. Je l'ai coupé court quand même. Ça aurait pu faire objet d'un épisode complet de distorsion. Il y avait des histoires de relevés cellulaires, d'autres trucs comme ça. J'ai coupé ça un petit peu plus court pour l'occasion.
Ouais.
Mais bon, vous irez vous renseigner un petit peu plus tard.
Ah, c'est tellement frustrant quand on n'a pas de coupable. Mais
oui,
où qu'on a un puis qui ressort après,
c'est
pire.
La famille doit être renversée.
C'est pour eux autres que c'est le pire. Parce qu'eux autres, ils doivent vivre dans le doute puis à se poser des questions qui vont rester sans réponse.
Exact, ben oui.
C'est ça le plus dur,
Donc Seb, je te passe la parole, mon cher.
Oh yeah. OK, moi les gars, je vais vous parler d'une histoire. Ben, en premier lieu, est-ce que vous, à l'époque, est-ce que vous regardiez la série Dexter?
Moi, oui, j'ai regardé beaucoup Dexter.
J'avoue que après, quand j'ai vu que la deuxième saison partait puis que c'était la même affaire que la première, j'ai arrêté là.
Ah, t'aurais
j'ai
pas
trouvé
dû.
Ça trop répétitif. J'imagine qu'à un moment donné...
Sans l'avoir écouté.
J'imagine qu'à un moment donné, il se réinvente. Là. Sauf que rendu à deuxième, je trouvais que c'était la même chose que la première, ça me tentait plus.
Je comprends.
J'ai trouvé ça répétitif, mais clairement, il y a beaucoup de qualité dans la série. Il n'aurait pas eu autant de saisons.
Non, exact. Il y a eu 8 saisons, même ils en ont fait une dernière l'année passée. Mais c'est sûr qu'au fil du temps, ça... Comment dire?
Ça évolue.
Oui, exact. Puis la saison 1 était basée sur le roman. À la base de ça, mais vous allez voir, on sait, Dexter, je vais vous en parler un peu plus loin, je vais vous expliquer un peu c'est quoi, mais c'est un personnage de fiction, mais il y a des gens parfois qui peuvent vouloir s'en inspirer.
Oh oui!
Et donc aujourd'hui, je vous parle de Mark Twitchell, que je surnomme le cinéaste obscur.
Oh.
Au début d'octobre 2008, Mark Twitchell, un aspirant cinéaste de 29 ans originaire de l'Alberta au Canada, loue un garage à Edmonton pour y aménager un studio destiné à son prochain film. Né le 4 juillet 1979 à Edmonton, il nourrit des ambitions cinématographiques dès son jeune âge, des aspirations qui le mènent à décrocher un diplôme en radio et télévision au Norton Alberta Institute of Technology. Sa passion le conduit à réaliser en 2007 un film destiné aux fans de la franchise Star Wars, qui est intitulé Star Wars Secrets of the Rebellion, qui, bien qu'adressé à un public assez niche, on s'entend, est apprécié là, par les geeks de science-fiction et comporte même un bref caméo de l'acteur Jeremy Bullock, qui est célèbre, là, pour son rôle de Boba Fett dans la saga Star Wars. Dans sa vie personnelle, Mark s'est marié deux fois. Son premier mariage avec Megan Castellera a eu lieu entre 2001 et 2005, puis ensuite il s'est uni à Jess Twitchell. À 29 ans, donc, il est déjà père d'une jeune fille. Et ses ambitions cinématographiques continuent de le guider. Pour son nouveau projet, il transforme un garage à Edmonton en studio de cinéma. Mais derrière ce projet se cachent des intentions beaucoup plus sombres. Mark est obsédé par la série télévisée Dexter, qui raconte l'histoire de Dexter Morgan, qui est un expert en médecine légale menant une double vie en tant que tueur en série. Le jour, il œuvre pour la police de Miami, suivant un code moral strict qui a été inculqué par son père adoptif pour ne tuer que les criminels qui échappent à la justice. Hein? Fait que c'est ça, Dexter. C'est pour ça qu'on l'aime, Dexter, dans le sens que dans cette série-là, c'est qu'on a l'impression qu'il rend justice des fois aux injustices un peu.
Oui, un peu un Robin des Bois des meurtriers.
Exact, un genre de vigilante. Là. Il s'assure justement que ça soit le vrai coupable. Il met son projet de film en exécution. Et pour l'un de ses personnages, il recherche des hommes hétérosexuels sur l'application de rencontre Plenty of Fish, sous le pseudonyme féminin Sheena. Il prépare également la scène avec une bâche en plastique, une table et diverses armes, rappelant la mise en scène justement de Dexter. C'est une démarche étrange pour le recrutement d'acteurs, et ses véritables intentions demeurent assez floues. Après quelques matchs, des likes là, sur l'application de rencontre en tant que Sheena, il y a une discussion plus approfondie, s'engage avec un certain Gilles Tétrault.
Ah ouais, Gilles?
Oui, Gilles Tétrault, c'est drôle, un nom très québécois, mais à Edmonton, là, ça me faisait sourire.
En même temps, on est toujours surpris de découvrir qu'il y a des francophones ailleurs
oui,
au Canada,
des
Québec.
Des franco-manitobains.
Ben il y en a beaucoup, en fait.
Oui, il y en a beaucoup. Oui, ça existe. Et ils semblent les deux bien s'entendre et décident de se rencontrer. Donc, Mark, ou plutôt Sheena, donne rendez-vous à Gilles dans le garage transformé en studio de tournage. Le 8 octobre, Gilles Tétrault, 36 ans, se dirige vers l'adresse donnée par sa date en Sheena. À son arrivée, au lieu de la charmante Sheena, il fait face à Mark, portant un masque de hockey. Sans crier gare, Mark l'électrocute avec un bâton électrique, brandit une fausse arme à feu et le force à s'allonger face contre terre avant de lui bander les yeux avec du ruban adhésif gris. Ça fait mal, ça, en plus, là, de se faire bander les yeux avec ça. En tout cas, la colle est assez intense. Effrayé mais résolu, Gilles résiste et découvre pendant la lutte que le pistolet est un faux. Il parvient à saisir une paire de menottes noires sur le sol pour se défendre. Mais Mark le frappe violemment, lui ordonnant de retourner au sol. Néanmoins, Gilles parvient à s'échapper du bâtiment, bien qu'affaibli. Mark le rattrape et tente de le traîner de force dans le garage, mais Gilles s'échappe de nouveau et croise un couple se promenant avec un chien. Il implore leur aide et le couple voit Mark essayer de feindre être un ami de Gilles avant de s'éclipser rapidement de la scène. Gilles réussit à rejoindre son véhicule et rentre chez lui. Arrivé, il vérifie le profil de Sheena en ligne. Là. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais celui-ci avait déjà été supprimé. Il se débat avec l'idée de contacter les autorités, mais la honte de se faire piéger si facilement le retient. Déçu de l'issue précédente, Mark se tourne de nouveau vers Plenty of Fish hein, pour... recruter un nouvel acteur.
Bien sûr.
Le 10 octobre 2008, John Brian Atlinger, un ancien fabricant d'équipements pétroliers de 38 ans, originaire de White Rock, en Colombie-Britannique, entre en contact avec Mark sur le site de rencontre, encore une fois sans se douter qui il est réellement. Ce jour-là, John informe ses amis qu'il a un rendez-vous avec une femme qu'il a rencontrée en ligne. Ça, c'est toujours prudent hein, de faire ça, justement. Vous allez voir, vous ne partirez plus jamais en date sans aviser vos amis après cette histoire-là.
Mais moi, je pense que ça devrait toujours être fait de nos jours, de toute façon. Oui, juste aviser, j'ai une date ce soir, il s'appelle tel gars, je m'en vais à tel bar. Tu sais jamais.
Ah, tu sais jamais?
Tu sais jamais.
Mais même quelle fille, comme dans ce cas-ci? Tu sais jamais, en fait. Donc, oui, il faut toujours...
Exact, ben oui, ça peut arriver aux gars aussi.
Ben oui, tu peux te faire catficher. Il y a plein d'histoires. À son arrivée, John est loin de s'imaginer que Mark l'attaquera et le tuera. Lorsqu'il arrive, Mark le prend par surprise avec une attaque brutale, le poignarde à mort et tente sans succès de brûler le corps. Devant cet échec, il découpe les restes de John en morceaux, les emballe dans des sacs de poubelle et les jette dans un égout pluvial situé au sud de la 130e avenue et de la 87e rue. Un peu comme dans Dexter, en fait, au niveau de la technique d'élimination du corps.
Le modus operandi.
Oui. Nous sommes maintenant à la mi-octobre et les amis de John commencent à s'inquiéter. Là, ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas de nouvelles de lui. Ils ont reçu des courriels prétendument envoyés par John affirmant qu'il est parti en vacances prolongées au Costa Rica avec sa date, là, avec son rendez-vous. Cependant, il y a quelque chose qui cloche dans les messages et ses amis sentent que quelque chose ne va pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Mark a pénétré par infraction dans le condo de John pour envoyer ces courriels-là trompeurs, tentant ainsi de créer un faux récit là, de sa prétendue escapade au Costa Rica. Mark a également envoyé un courriel de démission au travail de John, mais il n'a pas répondu à leur demande concernant l'adresse où envoyer le dernier chèque de paye. Ses amis, qui étaient encore de plus en plus inquiets, ont décidé de pénétrer par infraction dans son condo, un peu comme les amis dans ton histoire, Émile. Là. Quand tu t'inquiètes de quelqu'un, on dirait que c'est tout le monde fait ça. Là. Tu vas là puis tu rentres. Là, ils ont découvert son passeport de la vaisselle sale et aucun signe qu'il avait préparé un voyage. Assez inquiets, ils ont alors pris la décision de contacter les autorités. Une enquête pour homicide a immédiatement été ouverte par le service de police d'Edmonton.
Ah oui, c'est intriguant tout ça.
J'ai vraiment hâte.
C'est toute une histoire pour vrai.
J'ai vraiment hâte de voir où ça s'en va. J'ai tellement de questions en ce moment. Là.
Coup de chance pour les enquêteurs. Par prudence, comme je vous disais, John avait envoyé l'adresse que Mark lui avait donnée comme point de rendez-vous à ses amis. Cette adresse était celle du garage que Mark avait loué. Les policiers se rendent alors sur place. En arrivant, ils remarquent quelque chose d'étrange. La voiture de John est stationnée à proximité. Mark prétend qu'il l'a rencontrée par hasard. Selon lui, John accompagne actuellement une femme fortunée au Costa Rica et n'a plus besoin de sa Mazda. Il aurait vendu le véhicule à Mark pour la somme d'argent qu'il avait sur lui, soit 40 $ canadiens. Bien oui, tout le monde vend sa voiture à un prix dérisoire.
Ça arrive des meilleures familles.
Ben oui. Cependant, les policiers ne croient pas le récit de Mark et saisissent immédiatement son ordinateur portable ainsi que sa voiture, où ils découvrent du sang de John dans le coffre. Mark est donc amené pour être interrogé. Il se montre tout de même collaboratif avec la police, allant même jusqu'à conduire sa propre voiture jusqu'au quartier général pour faire une déclaration concernant l'homme disparu et le garage qu'il avait loué. Cependant, son comportement et ses déclarations ont sans doute suscité des suspicions parmi les enquêteurs, car il n'a pas pu fournir une explication convaincante du pourquoi il avait fait ces actes. Il n'y a rien qui se tenait. Ces éléments, combinés à d'autres preuves recueillies lors de l'enquête, conduisent à l'identification de Mark comme suspect principal dans le meurtre de John. En conséquence, la police l'arrête le 31 octobre 2008 et le charge du meurtre au premier degré. Mais là, vous pourriez vous demander, qu'est-ce qui est arrivé à Gilles? Eh bien, Gilles ne contacta la police qu'un mois après son attaque. Le 2 novembre, après qu'un ami lui ait fait part d'un reportage annonçant que Mark a été accusé de meurtre au premier degré. fin novembre 2008. Avant le procès pénal, les procureurs de la Couronne et de la Défense ont sollicité d'importantes interdictions de publication ainsi que des ordonnances de mise sous scellé sur les preuves policières. Cette démarche a eu pour effet d'empêcher les médias de divulguer les détails de l'affaire avant que le jury ne leur prenne connaissance, en prenne connaissance lors du futur procès. Il est fort probable que les procureurs de la Couronne et de la Défense ont demandé ces mesures-là pour vraiment garantir un procès équitable. Puis c'est drôle, on en discutait dans un des épisodes qu'on a enregistré dernièrement, ouais. la même question. Puis dans l'autre cas, il n'avait pas été accordé, mais dans ce cas-ci, ils ont autorisé l'anonymat. Encore une fois, pour ne pas influencer le jury, c'est drôle, hein, comment de...
C'est pas tout le temps, ouais, c'est...
D'un cas à l'autre.
Exact, il n'y a pas de standard.
Non, c'est vraiment du cas par cas.
Et là, on va se rendre au procès. Le procès de Mark Twitchell, qui s'est tenu du 14 mars au 12 avril 2011, hein, c'est quand même 3 ans, ou presque, là, après 2 ans et demi quand même, après le drame, à Edmonton, il a vraiment captivé l'attention de la ville pendant ces 3 semaines-là, présidé par le juge Terry Clarkson, et il y avait un jury de 12 personnes qui ont vraiment été confrontées à une affaire là, assez particulière, là. La Couronne a ouvert le procès en présentant 111 preuves accablantes. Écoutez ça, là, les preuves sont folles. Là. Parmi celles-ci, un document de 42 pages, écrit par Mark sur son ordinateur, a été mis de l'avant. Selon l'accusation, ce document était une confession détaillée du meurtre commis par Mark.
Bon, enfin on va savoir.
Oui. En complément, la Couronne a fait témoigner Gilles Tétreau, qui avait échappé de justesse à une attaque de Mark dans le fameux garage, apportant ainsi un témoignage de première main sur les agissements de l'accusé. Il y a des experts en médecine légale et en informatique aussi qui ont été appelés à la barre là, pour fournir toutes sortes d'éclaircissements techniques. Le procès a également révélé des détails troublants sur la manière dont Mark avait été inspiré par Dexter pour commettre le meurtre. Par exemple, il avait créé un document qui s'intitulait « SK » Confession, donc confession, sur son ordinateur où il détaillait ses fantasmes meurtriers et faisait des comparaisons entre lui-même et le personnage de Dexter Morgan. Du côté de la défense, l'argument était que le document de 42 pages n'était rien de plus qu'une œuvre de fiction, bien sûr. Selon elle, Mark n'avait pas tué John, mais avait simplement contribué à sa disparition. Je comprends pas cette nuance-là.
C'est une drôle de phrase.
Oui, c'est clair.
Et la défense a également avancé que Mark avait agi en légitime défense lors de l'altercation avec John. C'est comme s'il s'était défendu. Il a comme reviré ça de l'autre bord. Mais là, avec le témoignage de Gilles, là, on le voit bien, le modus operandi.
Mais oui, il n'y a aucune chance. Ben non, c'est ça. C'est une drôle de tentative.
Oui, oui, exact. Même des fois, là, les avocats de la défense sont pas chanceux dans le sens que t'es pris avec cette...
Cet fardeau-là.
Oui, exact. Puis tu es obligé des fois de sortir des je me permets là, des niaiseries comme ça là, pour essayer de diminuer le crime de ton client. Lors de son passage à la barre, Mark a admis avoir attiré John dans le garage sous un faux prétexte. Il a reconnu lui avoir porté un coup de couteau fatal à la gorge et avoir par la suite découpé son corps. Toutefois, Mark a maintenu qu'il cherchait seulement à effrayer John pour son film d'horreur et que la situation avait dégénéré lorsque John l'avait attaqué en retour.
N'importe quoi.
C'est n'importe quoi parce qu'en plus, dès qu'il est arrivé, il a donné un coup de couteau, il n'a même pas eu plus
de défense. C'est aucunement crédible.
Non, non, parce que justement, à cause que Gilles s'est défendu, il a pris, comment dire, il a pas pris de chance. Il l'a tout de suite attaqué pour éviter un peu que ça ne fonctionne pas encore, là. Par la suite, Mark a aidé la police en révélant l'emplacement des restes de John, au moins pour sa famille. Là. Les enquêteurs ont découvert ces restes dans les égouts près de la maison des parents de Mark. Je pense à ses parents aussi. Là. Confirmant ainsi là, la macabre réalité de l'affaire. Après 5 heures de délibération, le jury a rendu son verdict, trouvant Mark Twitchell coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mark a tenté de faire appel de sa condamnation, mais sa demande a été rejetée. Vraiment, là, ça n'a jamais été accepté. Là, donc, ce chapitre-là est clos. Pour anecdote, il est important de noter que le divorce, il a divorcé de sa femme qu'en 2010. Donc, ça a pris Pauvel aussi. Là, j'ai beaucoup d'empathie.
Ben oui.
Souvent, elles sont aucunement au courant de ça. C'est des faces cachées de leur conjoint. Là. Il y a même une double vie.
Là.
Oui, exact. Il y a même une petite fille aussi. Donc, très, très triste. Donc, voilà, c'était mon récit.
Mais toute une histoire.
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Là. Peut-être que j'ai perdu attention en réfléchissant au potentiel. Mais c'était quoi son motif?
Voulais-tu vraiment
réaliser un film ou
non? Non, il est juste inspiré de Dexter.
C'est juste inspiré.
Oui,
il est inspiré
de Dexter, mais même...
Je suis resté accroché à ça, c'est pour
mais,
ça.
Mais dans sa tête, c'est une forme de mise en scène aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Mais oui.
Mais je pense pas qu'il y avait objectif de comment dire, de...
Il
de
a faire, pas vraiment
de
film,
releaser,
là.
Oui, exactement. Non, c'est ça, c'était juste un prétexte, mais c'est tout de même particulier. Puis Mark, il avait quand même un potentiel. C'était un cinéaste qui semblait avoir un bon début de carrière. Je veux dire, il faisait des choses... encore une fois, on s'entend, là, c'est un trouble de santé mentale.
Ah, non, oui, ça, c'est définitif. À chaque fois qu'on a un meurtrier ou un criminel qui décide de s'inspirer de COVID, d'un film pour aller faire la même chose après, on avait eu la même chose en Asie, quelque part en Asie, je suis plus sûr, mais avec Joker. On avait eu un qui était débarqué dans le métro qui avait fait des victimes.
Oui, qui se prenait pour Joker.
Puis il y en a d'autres, ils ne me viennent pas comme ça, mais ça arrive de temps en temps. Je sais qu'on a déjà eu un Batman, mais ça là, on parle des années 90, j'ai pas de mémoire, là. Mais on a déjà eu un Batman aussi. Okay.
Il y a eu un samouraï dans les rues de Québec.
Oui,
il y a eu
un samouraï à Québec.
Un soir d'Halloween.
Oui, c'est exact. Qui est parti du 4-5-0 pour s'en venir ici.
Ah, triste histoire.
Mais juste... juste en terminant, là, lui, il voulait se comparer à Dexter, mais Dexter, au moins, il avait un code moral. Il s'attaquait à des vrais criminels. Lui, il s'est attaqué à des pauvres victimes prises au hasard sur un site de rencontre. Il n'y avait même pas d'historique, il n'y avait pas de raison. C'était
pas
un
ça,
match.
Mais c'est pour ça que moi, j'y vais peut-être un peu fort, là, m'attaquer à des gens que je connais pas, mais c'est pour ça que je le trouve un petit peu idiot, moi, parce que... Il t'a pas suivi Dexter partout. Tu sembles pas avoir compris ce que Dexter faisait. Là, déjà, ça part très mal. Mais en plus, au lieu de... Parce qu'on le sait, c'est souvent le modus operandi des tueurs en série, c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à de totales inconnus, donc sont difficiles à retracer.
Oui.
Mais là, il s'en prend à des inconnus, mais en faisant une petite annonce dans le journal. C'est donc bien idiot.
Oui, ben en fait,
c'est plus qu'à laisser des traces.
Ah
là.
Ben oui, je veux
c'est
dire.
C'est absurde,
et,
là.
Et je veux dire, avec un mandat, ils peuvent aller chercher le data sur Plenty of Fish. Là. Ils ont toutes fait ces corrélations-là, en fait, là, pour l'identifier, mais c'est tellement...
C'est bizarre.
Oui, hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a snappé. Puis c'est rare qu'on a des histoires canadiennes, en plus.
Là, oui. Donc, yes, donc, ben merci, mon cher Seb, pour cette histoire. Et le dernier, non le moindre, Simon, on te passe le micro, mon cher.
Cette année, pour le spécial Halloween, j'ai eu envie de me plonger dans les origines de ma passion pour les histoires insolites, c'est-à-dire le cinéma d'horreur. Hein, c'est de là que moi ça me vient, hein, et soumise à l'approbation de la Société des Minuit, cette histoire s'intitule « Doris Bitter et l'entité ».
Merci pas pour l'effet sonore.
Je vais vous parler de l'affaire qui a inspiré le film The Entity, ou L'Entité, si vous préférez, sorti sur nos écrans en 1982 et réalisé par Sidney J. Fury. Est-ce que vous avez déjà vu le film, les gars?
Non, pas du tout. Moi non plus.
OK, ben The Entity raconte la hantise violente de Carla Moran, une mère monoparentale de 4 enfants dont la maison n'était pas seulement aux prises avec un poltergeist agressif, mais elle aurait aussi été violée par l'esprit maléfique. Donc, trigger warning, mais là, vous en faites pas. Outre la mention occasionnelle du viol dans mon histoire, on ne va pas dans les détails, puis de toute façon, vous allez voir où je m'envoie. N'ayez crainte. Mais donc, le film relate son expérience avec les parapsychologues qui tentent de l'aider à se débarrasser de l'entité. C'est un film d'épouvante quand même assez bien réalisé et très bien coté, je vous le suggère, même si la fin est complètement conne et n'a jamais eu lieu, je vous garde la surprise. C'est bien sûr un livre qui a inspiré le film, hein, portant le même titre, The Entity. Il a été écrit par l'auteur Frank DeFilita, en 1978, le même auteur qui signe Audrey Rose en 1975, pour ceux qui connaissent. Mais lançons-nous enfin dans l'affaire, si vous le voulez bien. Déjà, le nom du personnage principal, qui s'appelle Carla Moran, mais c'est un nom fictif hein, pour protéger l'identité de la famille. Son vrai nom est Doris Bitter.
Mm.
Doris est arrivée avec sa famille en Californie alors qu'elle n'avait que 10 ans. On en sait très peu sur son passé, mais au moment où débute notre histoire, elle ne va pas bien. Sa vie va de mal en pis. Elle est en début trentaine avec 3 garçons à sa charge, 10 ans, 13 ans et 16 ans, et une fille de 6 ans. Les enfants sont tous de pères différents, qui ont tous quitté le navire. Elle se retrouve seule pour les élever. Au début des années 70, elle est alcoolique, toxicomane et souffre de plusieurs problèmes émotifs. C'est une femme brisée par un passé d'abus qui remonte jusqu'à sa jeunesse. En 1974, elle emménage avec ses enfants dans une petite maison délabrée de Culver City, en Californie. La petite bicoque tombe en ruine, mais c'est tout ce qu'elle peut se permettre. À 2 reprises par le passé, la ville a condamné la maison, la considérant inhabitable. Lorsqu'elle s'y installe, Doris a 37 ans. Rapidement, elle va se mettre à raconter des choses étranges qui se passent dans la maison. Doris et ses fils prétendent avoir vu des apparitions fantomatiques, mais ce n'est rien à côté des agressions que subit Doris. Elle dit avoir été violée à plusieurs reprises par ses esprits et qu'une fois, elle a même été lancée dans un mur par une force invisible. Lors d'une de ses agressions, son fils le plus âgé aurait tenté de l'aider, mais dès qu'il s'est approché, il aurait lui aussi été projeté dans les airs de manière similaire. Gênée de le rapporter à la police, Doris en parle plutôt à une de ses amies. Le 22 août 1974, les deux femmes se retrouvent dans une bibliothèque de la région. À un moment, l'ami de Doris entend une conversation entre deux hommes dans l'allée voisine. Ils discutent d'événements paranormaux. Doris et son ami se sont approchés et se sont présentés. Les deux hommes affirment être des parapsychologues de l'Université de Californie, Barry Taff et Kerry Gaynor. Doris leur raconte ce qu'elle vit. Elle a été violée par 3 entités à plusieurs reprises. Pendant que 2 petites créatures la retiennent par les bras et les jambes, le troisième, beaucoup plus imposant, s'en prend à elle. Elle les sent, mais elle ne les voit pas. Les deux chercheurs sont sceptiques, mais intrigués, alors ils acceptent de lui rendre visite pour inspecter la maison. Barry Taff a un doctorat en psychophysiologie, c'est-à-dire l'étude des rapports entre l'activité physiologique et le psychique. En gros, hein, je résume.
Oui, oui.
Kerry Gaynor, lui, est diplômé en philosophie et hypnothérapeute pour aider les gens à arrêter de fumer. Donc, en réalité, c'est pas parce qu'on peut appeler de, c'est pas ce qu'on peut appeler de grands parapsychologues.
Non,
hein?
Non, effectivement. C'était une autre époque aussi, d'une
certaine
façon.
Oui, c'est sûr, mais vous allez voir, ça va se... je vais remplir les espaces en blanc bientôt. Quelques jours plus tard, Taff et Gaynor débarquent chez Doris. La première chose qui leur saute aux yeux, c'est le terrible état des lieux. Ils comprennent vite que la famille vit sous le seuil de la pauvreté. Il flotte dans l'air une odeur extrêmement nauséabonde. L'atmosphère est oppressante. Doris se met à raconter que lorsqu'elle a emménagé dans la maison, une voisine, une vieille dame mexicaine, est venue frapper à sa porte. Très inquiète, elle lui a dit que la maison était maléfique et qu'elle devrait partir avant qu'il ne soit trop tard. Des événements étranges se produisent dans la maison. Doris raconte que des objets se déplacent tout seuls, qu'il y a souvent des bruits bizarres et inexpliqués. Mais ce n'est rien à côté de ces viols fantomatiques à répétition. Il existe un terme pour ce qu'on décrit comme une paraphilie. En clair, Doris serait victime de spectrophilie. Mais ça, je vais y revenir un peu plus tard, okay, si vous le permettez. Les deux chercheurs ont des gros doutes sur les prétentions de la pauvre femme. Des objets qui s'envolent, c'est une chose, mais des viols fantomatiques, c'est un peu plus difficile à croire.
Effectivement.
Pour eux, elle est tout simplement malade, probablement psychotique. Ils vont donc la mettre en contact avec une de leurs amies psychologues pour l'aider. Selon eux, ce n'est pas une affaire paranormale. Cependant, 10 jours plus tard, Taffy Gaynor reçoit un appel de Doris affirmant qu'un objet a volé à travers la pièce, mais cette fois, elle a un témoin. Si elle dit vrai, ça mérite une seconde visite. Le 6 septembre, les chercheurs retournent à la demeure maudite. Lorsqu'ils entrent dans la chambre de Doris, aussitôt ils constatent que la température est extrêmement froide, contrairement au reste de la maison. Mais aussi, il y a une horrible odeur de mort, comme si un cadavre était en train de pourrir dans le coin de la pièce. Par la suite, ils sont eux-mêmes témoins d'un placard de la cuisine qui s'ouvre tout seul et ils voient alors un poêlon être projeté à travers la pièce par une force invisible. Ils n'en croient pas leurs yeux. Ils vont inspecter le placard, mais sans trouver la moindre explication rationnelle. Ils ont conclu qu'il se passe vraiment quelque chose de surnaturel dans cette maison. Doris disait donc vrai. Il croit alors qu'elle n'a peut-être pas inventé ces histoires d'agression fantomatique après tout. Ils sont de toute évidence face à un cas unique. Les deux parapsychologues lancent leur enquête. Hein. En tant que chercheurs universitaires, ils doivent trouver des preuves irréfutables. Lors de leur troisième visite, Doris est complètement affolée, en pleine panique. Elle dit que l'entité est dans sa chambre. Toutefois, bizarrement, elle est la seule à le voir. Ils vont quand même prendre toute une série de photos dans la pièce avec un appareil Polaroid, dans l'espoir de capturer quelque chose. Aucune des photos ne montre quoi que ce soit. Rien n'est détecté. À l'exception d'un détail que les hommes n'arrivent pas à s'expliquer. Il y a une sorte de brouillard sur chacune des photos où Doris aurait indiqué que l'entité était. Les autres photos n'ont rien d'anormal. Ils ne trouvent aucune explication pour cette brume étrange. Voilà ce qu'ils cherchaient, une preuve photographique. Quand Doris déclare que l'entité est en train de quitter la pièce, les deux hommes ressentent soudainement un courant d'air froid les glacer jusqu'aux os. Taffy Gaynor en font part à leurs collègues scientifiques. Tout le département de parapsychologie de l'Université de Californie s'y intéresse.
Okay.
En fin septembre, les deux chercheurs retournent chez Doris, mais cette fois avec une vingtaine de collègues et chercheurs. Ils ont l'intention de provoquer la chose pour récolter un maximum de preuves en présence de nombreux témoins. Le groupe s'installe dans la chambre de Doris Bitter et tente d'entrer en contact avec l'entité. Les nombreux témoins raconteront plus tard que ce soir-là, la chambre est traversée par des boules de lumière verte qui virevoltent dans la pièce. Selon eux, ces mystérieuses lumières oscillent et se balancent en fonction de l'état émotionnel de Doris.
Ah ouais.
Qu'importe ce que c'est, les chercheurs sont terrifiés par ce qu'ils voient. Bien sûr, ils vont tenter de prendre en photo le phénomène paranormal. L'entité n'apparaît toutefois que sur une seule des photos. Et là, je vous invite, okay, ceux qui nous écoutent,
oui, oui,
ou même vous autres, les boys, les photos ont été partagées sur Facebook. Donc, je vous invite à y jeter un œil,
ouais,
mais je vais y revenir plus tard aussi. Donc, ça presse pas. Un grand arc lumineux apparaît autour de Doris Bitter sur la photo où ce qu'on a l'impression... Là,
oh my God, ah ben oui!
On voit l'arc sur la photo, mais ça serait ah ouais, hein, l'événement où il y aurait eu des lumières vertes qui virevoltaient dans la pièce. Donc,
okay,
ils sont tous bouleversés par l'événement. Maintenant, les deux parapsychologues souhaitent prouver les agressions subites par la pauvre femme. L'enquête roule depuis déjà 6 semaines et ils sont convaincus de posséder les preuves solides de l'existence de l'entité. Mais comment prouver les viols par les esprits? L'auteur Frank DeFilita entend parler de l'affaire et est curieux, demande à visiter la maison. Donc un soir d'octobre 1974, les boules de lumière verte apparaissent à nouveau devant l'équipe. Puis à un moment, ils observent quelque chose de totalement extraordinaire. Les boules de lumière qui traversent la pièce se rejoignent en un centre et ensemble se mettent à former une silhouette d'homme, plus précisément un buste formé de lumière verte. Ils sont au moins 30 personnes dans la chambre et tous affirmeront avoir vu la même chose.
Ah oui, mon Dieu.
Ah ouais.
Dès le lendemain, l'auteur Frank DeFilita, choqué par ce témoignage de Doris et ce dont il a été témoin, débute l'écriture de son livre intitulé « L'entité ». Par contre, les chercheurs ne seront plus jamais témoins du moindre événement surnaturel. Ils ne trouveront aucune explication rationnelle pour expliquer la hantise. Ils avancent plusieurs théories, comme par exemple que Doris a peut-être fait entrer l'esprit par accident en jouant au Ouija, mais ils ne seront jamais capables d'expliquer ce qu'ils ont vu ou même à qui appartenait le buste fantomatique de la dernière apparition. Encore aujourd'hui, Barry Taff et Kerry Gaynor affirment que c'est le cas le plus terrifiant de toute leur carrière. Plusieurs mois après l'effrayante soirée d'octobre, Doris va finalement quitter la demeure maudite avec ses enfants. Elle veut s'éloigner des projecteurs et passer à autre chose, mais elle n'est pas libérée pour autant. Les phénomènes, selon ce qu'on raconte, la suivent et restent avec elle jusqu'à sa mort, même si ceux-ci sont moins intenses et violents que dans la maison de Culver City. Elle déménage un peu plus loin à Carson City, là où il va décéder dans son lit en 1999. Selon son fils Harris, quelques instants avant qu'elle ne rende l'âme, les boules de lumière verte tournoyaient encore autour de sa mère.
Ah ouais, my God.
Alors voilà l'histoire telle qu'elle nous est racontée. Maintenant, démolissons, si vous le voulez bien, oui, ensemble, oui, oui, la légende. Parce que, bon, hein, voici pourquoi je pense que cette histoire est inventée de toutes pièces.
Okay.
Parce qu'il y a beaucoup de manques dans la supposée enquête paranormale de nos deux oiseaux, je me permets, Taff et Gaynor. D'abord, les événements les plus dramatiques ont eu lieu sans témoins de l'université. Hein? Je veux parler des agressions.
Ah, okay. Oui, oui.
Taff le dit lui-même, il n'était pas là. Alors, comment savoir? Pour ça, ils sont un peu obligés de croire les prétentions de Doris. Hein? Personne n'a jamais vu la moindre agression. Mais l'agression, c'est la chose qui rend cette histoire unique. Hein? Parce que ce type d'allégation de violence par des fantômes est extrêmement rare. Et après vérification, c'est surtout au Moyen-Âge que ça avait lieu. Déjà, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Cela dit,
oui,
on... Cela dit, on en parle encore parfois. Hein. Je vous rappelle qu'en 2020, Donald Trump faisait l'éloge du docteur Stella Emanuel qui prétendait que les problèmes gynécologiques étaient causés par des démons invisibles qui avaient des relations sexuelles avec les femmes pendant leur sommeil.
Mais c'est sûr, c'est ça.
Bref.
C'est inévident.
C'est clair.
Si vous en faites la recherche, vous en trouverez des gens qui prétendent avoir été abusés par des fantômes. Mais c'est une perception trompeuse, ouais. Des illusions tout à fait normales causées par notre cerveau. Selon le folkloriste David Hufford, 15% des gens ont l'impression de subir un tel abus dans leur sommeil à au moins un moment de leur vie.
Ah oui.
Si on remet les choses en perspective, c'était une situation familiale dysfonctionnelle. Selon les enquêteurs, la relation de Doris et ses enfants était déjà très mauvaise. Les frères se battaient ensemble régulièrement. Le fils le plus âgé a même déjà déclaré que lui et ses frères et sœurs étaient tous des médiums.
Okay.
Et que souvent, ils avaient vu des esprits. Hein? Si vous voulez mon avis, on peut pas se fier à leur témoignage parce que c'est des enfants. Fait que déjà,
ouais, effectivement.
Mais...
Ouais.
Il me semble que c'est pas fiable non
oui,
plus.
Oui, oui,
on est tous médiums.
Oui, ben oui, en plus. Mais c'est vrai qu'enfant, on a vraiment l'imagination
ben oui,
fertile.
Ben oui, on est facilement influençable
oui, oui.
aussi.
Puis on se fait peur facilement.
Mais comme Taff note dans son rapport, les agressions auraient eu lieu plusieurs semaines avant leur première visite. Donc, alors, même pour les ecchymoses que Doris prétendait avoir eues sur son corps... Mais personne ne les a jamais vus. Hein?
Ah, OK. Il n'y a même pas de preuve des ecchymoses.
Okay. Il était déjà guéri, selon Doris. Okay. Hein?
Okay.
Puis là, je lance ça. Ça se pourrait-tu qu'elle se soit juste blessée pendant une de ses beuveries? Parce qu'elle revenait régulièrement à la maison, tard le soir, dans un état d'ivresse avancé.
OK.
Je dis ça, je dis rien. C'est possible. Depuis, elle n'a jamais rapporté les viols ni à la police, ni à aucun médecin. Elle a donc jamais été examinée pour confirmer le moindre abus au moment des faits. Hein, tout
un
ce
ADN
qu'on a...
de fantôme.
Ça existe-tu, ça? Tout ce qu'on a, c'est sa parole. Hein, mais même Taff le dit dans son rapport, et je cite, librement traduit,
oui,
bien
oui.
sûr, là, « Les événements paranormaux de la maison ont probablement rien à voir avec le viol, sauf dans l'esprit de Doris et ses enfants. Il est évident qu'elle est une femme profondément troublée et ses allégations sont sûrement dues à une grande partie à une détresse émotionnelle extrême associée à une imagination hyperactive et des fantasmes refoulés. » Tu vois, même lui, il veut pas repousser l'idée complètement, mais
ouais.
il peut pas vraiment le confirmer, tu sais. Quand les enquêteurs ont posé des questions sur le passé de Doris, elle restait floue et cryptique. Elle voulait pas en parler. C'est pour ça qu'on sait pas grand-chose.
Okay.
Elle a même refusé de dire son âge à la base. Ils comprennent vite, au fil de leur rencontre, l'existence de cette toxicomanie et de son alcoolisme, mais comme elle refuse de parler de son passé, ils n'ont aucun moyen de savoir ce qu'elle consommait ou encore quel était son passé médical ou psychiatrique. Donc déjà, comme enquête, ça part mou, là.
Effectivement.
Il est clair que ses problèmes sont exacerbés par sa consommation. Hein, sous influence des événements anodins comme trébucher en chemin vers son lit, peut-être très mal interprété. Hein, donc la théorie auquel je crois le plus, c'est que Doris aurait plutôt fait de la... Puis là, vous connaissez bien le sujet, peut-être de la paralysie du sommeil.
Oui, oui, oui.
Il faut comprendre que les récits de viols spectraux remontent à la Grèce antique.
Ah, ouais. Okay.
Et les scientifiques modernes ont associé le phénomène à la paralysie du sommeil, un trouble du sommeil encore inconnu et incompris à l'époque de la Grèce antique.
Oui, absolument. Bien sûr.
Les scientifiques associent aussi la paralysie du sommeil à la spectrophilie, que j'ai dit plus tôt, la paraphilie qui désigne les relations sexuelles avec les fantômes. Donc, c'est, je crois, une théorie très plausible pour ces supposés abus. Hein? Elle racontait se sentir écrasée
oui,
puis
oui,
tenue.
Oui.
Ça pourrait être ça.
Effectivement.
Second point sur trois, Taff et Gaynor... C'est des amateurs. Hein? Il n'y avait aucun protocole de recherche, aucun moyen pris pour éviter que la scène soit contaminée ou éviter les fraudes. Il n'y a eu aucune vérification formelle. À mes yeux, le fait que Taff se considère lui-même, puis là, ça, je ne l'ai pas dit encore, comme un médium et qui croit qu'une séance de Ouija serait une bonne technique d'enquête fiable démontre son manque de crédibilité.
Effectivement.
Il prétend aussi avoir enquêté, ça c'est drôle, 3500 cas de hantise et de poltergeist en 30 ans de carrière.
Ça 3500.
Sonne bien. Ça sonne bien, hein?
Ben oui, ça fait des beaux
chiffres. C'est beaucoup. Hein?
Mais si on fait le calcul, je l'ai fait, ça donne une moyenne de 117 cas par année. Ça, c'est une enquête ben paranormale aux trois jours.
Ben ouais, non, c'est ça fonctionne pas, là.
Mais encore plus impressionnant que le nombre d'enquêtes, c'est son absence totale de preuves. Il n'existe aucun document confirmant cette information. Aucun. Tu sais, il me semble que 3500 cas, il devrait y avoir au moins un rapport quelque part dans un tiroir, là. Je peux pas
des
croire.
Des preuves, des preuves.
Exact.
Donc, l'histoire prétend qu'il y a eu environ une cinquantaine de témoins aussi, hein, se rappelant au moins une fois 30 personnes dans la chambre de Doris. Là, premièrement, elle est grande comment sa chambre, là? c'est une chambre de petite maison pauvre, de
oui,
famille pauvre,
oui,
délabrée. Puis
oui, oui.
Quand t'as quatre enfants, on sait ce que c'est, les mères, c'est sûr qu'elle a pris la plus petite des chambres. C'est
ben
comme
oui,
ça une
c'est
mère.
C'est souvent ça, oui, oui.
Fait que tu peux-tu, on voit, on peut
oui,
juger un petit
photos,
peu,
on
sent
peu,
voir
oui.
L'entièreté de la pièce. On voit quand même qu'il y a... 30 personnes ne rentrent pas dans cette pièce-là, là, tu sais.
Ça, c'est serré.
C'est serré. Ça se fait, là, mais... En tout cas, moi, je trouve que c'est... J'ai pas confiance à cette information.
Non, effectivement.
Mais il y a aussi que ils sont nombreux. Alors, comment ça, on les a jamais entendus parler? Hein? Aucun n'a jamais rapporté quoi que ce soit de vive voix, mis à part leur mention dans leur rapport de TAF. Donc, on sait pas qui c'est. Ils sont pas nommés nulle part, sauf que quelques exceptions. Alors, je pense fermement que c'est juste... Pas vrai. Hein, le manque de témoins indépendants pour corroborer les apparitions, on veut tout dire. Avec un cas d'une telle notoriété, on se serait attendu à avoir au moins une douzaine de témoins, mais à part Taff et Gaynor, il n'y en existe aucun pour défendre l'affaire. J'ajouterai que le poids long qui s'envole n'a jamais été documenté dans les rapports officiels d'enquête de Taff, ce qui me laisse croire que ça a été inventé au cours des entrevues qui ont suivi. Troisième point, les photos. Il y a deux sets de photos. Les premières sont des Polaroids. Ça, c'est les trois photos collées que vous avez.
Oui, oui, oui.
Donc, ils ont utilisé un appareil photo instantané Polaroid SX70 et un Reflex Honeywell Pentax chargé d'un film infrarouge. Le film infrarouge a été surexposé parce que c'est des incompétents, alors les photos n'ont pas fonctionné. Sur les Polaroids, toutefois... Même si la plupart des sites web affirment que c'est Doris sur les photos, ben c'est pas vrai. C'est
ah
en
non?
fait Candy, c'est l'ami médium, une autre, de Taff. Donc, si on en croit ce qu'ils disent, on est déjà rendu à 6 médiums.
Ah, quand même.
Passons. Donc, chaque fois que Candy, hein, l'ami de ouais. Taff, criait qu'elle voyait quelque chose, Taff prenait une photo. 6 des 13 photos prises sont surexposées, les deux à gauche qu'on voit ici.
Oui, oui, on les voit.
Et pour bien. Servir de comparaison, il y en a eu 6 autres qui ont été prises sans apparition. Okay? Ces 6 photos sont normales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas surexposées, il n'y a rien de spécial. Selon Taff, la brume blanche qu'on voit, c'est la preuve pardon, de la présence de l'entité, mais en réalité, c'est seulement la preuve qu'il ne sait pas prendre des photos.
Des bonnes photos.
Parce que si on regarde attentivement la série des trois Polaroids que j'ai mis en ligne, on marque que sur les deux photos de gauche, la silhouette de Candy apparaît en ombrage derrière elle sur le mur. On voit la ligne d'ombrage.
Oui, oui, oui.
Donc, à droite, une des photos de comparaison qui paraît normale. La différence, c'est que les premières ont été prises avec un flash, mais pas les photos de comparaison. Et dans le manuel d'instruction du Polaroid, c'est écrit, clairement que si on utilise le flash, il ne faut pas être trop proche parce que sinon, ça ressort tout blanc et surexposé. Et c'est pour ça la deuxième photo que j'ai mis là, de la tête de mannequin.
Ah
là.
Oui, oui.
C'est ça l'exemple.
Oui, oui.
C'est ça l'exemple. C'est avec et sans flash. Donc la deuxième, c'est clairement une photo paranormale.
Oui, exactement. C'est le fantôme de cette mannequin.
Mais là, bon, hein, évidemment, je résume. Hein, vous comprenez que on coupe un peu, là, mais j'ai fait mes vérifications, même si je ne vous partage pas tous les petits détails techniques. J'ai aucun mérite non plus. Hein, plusieurs ont fait les recherches avant moi. Je ne fais que vous les rapporter. Taff affirme, pour le temps, pour la deuxième photo avec l'arc, il affirme dans son rapport qu'à sa cinquième visite, ils ont créé une espèce de quadrillé sur les murs avec des panneaux noirs et du tape blanc pour faire une espèce de graphique servant de référence pour analyser les photos. Pourtant, on regarde la photo la plus célèbre de l'affaire
ouais.
et prise supposément cette journée-là, On voit bien qu'il n'y a aucun quadrillé de carton sur le mur derrière Doris Bitter.
Non.
Qui est assise sur son lit. Donc, alors, pourquoi il nous dit ça si c'est clairement pas vrai? Aucune idée, mais ça prouve qu'il a menti, en tout cas. Maintenant, la photo. Elle aurait été prise, supposément, pendant l'envol des lumières vertes. Dans son rapport, Taft dit que Doris était recroquevillée en boule dans le lit. Cependant, on voit clairement sur la photo qu'elle est plutôt assise et semble même désintéressée par ce qui se passe.
Oui, c'est étrange la photo. Hein. On dirait quasiment qu'elle est timide et qu'elle ne veut pas se
prendre c'est bizarre, la photo. Hein. Elle ne paraît pas du tout angoissée, en tout cas. Hein. Mais savez-vous ce qui peut faire des traces blanches comme ça sur une photo? Un poil ou un cheveu collé sur la lentille.
Ben oui, évidemment.
De plus, Taff affirme que les lumières volaient au-dessus de Doris. Mais on peut voir à gauche que l'arc de gauche passe devant la tête d'une des personnes présentes. Donc, la distance, ça ne fonctionne pas. Clairement, ça vient de la lentille. Et si elle n'est pas sur la lentille, ça peut être aussi juste un bout de fibre dans l'air. Hein? L'effet lumineux sur la pellicule est le même que la surexposition du flash des Polaroids. L'endroit était poussiéreux, insalubre. C'est probablement une simple poussière. Certaines émissions cheap de paranormal prétendent que les photos ont été authentifiées, mais j'ai fait mes recherches et les prétentions sont fausses. Personne de respectable n'a jamais endossé l'authenticité des photos. Et j'ajouterais qu'après de nombreuses visites sur plusieurs mois et ô combien d'événements paranormaux, et ce, équipés de caméras vidéo et de plusieurs appareils photo, comment ça se fait que tout ce qu'on a, c'est 2-3 photos floues.
C'est vrai, appareil.
De mauvaise qualité.
Ouais, Christian Page te dirait la même
oui,
chose.
Oui, exact.
Tu sais, il me semble qu'il aurait dû avoir des centaines de photos, des vidéos. Dernière chose avant de terminer, on affirme que tout le département de parapsychologie de l'université a étudié l'affaire. Eh bien, sachez que même sur la page Wikipédia du département universitaire, vous irez voir, il y a une section entièrement dédiée au fait qu'ils sont pas crédibles et que leur méthodologie est pas bonne.
Imagine.
Sur Wikipédia.
Oui, c'est vrai que ça confirme.
Moi, je pense simplement que Doris Bitter n'allait pas bien, sa famille non plus, et on a mal interprété ce qu'elle a vécu. Pour ce qui est de Taff et Gaynor, selon moi, c'est des escrocs et des mauvais qui plus est, de par leur amateurisme grossier. Ça a eu lieu peu de temps après la sortie du film en salle The Exorcist. Donc, les deux oiseaux ont simplement flairé la bonne affaire
absolument,
et ont voulu en profiter. Malgré tout, ne gâchez pas votre plaisir. Le film The Entity de 82 est très divertissant et efficace si vous êtes fan d'épouvante.
Oui, ben oui, c'est ce que j'allais te demander. Après tout ce que tu t'as dit, puis je sais que tu donnais des mérites au film, on dirait que je me questionnais sur la...
Mais je pense qu'on peut quand même séparer les deux.
Oui,
le film peut être très bon,
ben oui,
bien
quand
réalisé,
t'embarques dedans, c'est,
mais
c'est
juste que la mention inspirée de faits réels, il faut la prendre avec des, des pinces. Là.
Oui,
surtout la scène finale, comme je dis, je ne vais rien spoiler, mais la scène finale n'a pas de bon sens. C'est intéressant, là, mais ça n'a pas de bon sens. Puis c'est jamais arrivé. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est un bon film, l'histoire n'est pas autant vraie.
Vaut mieux rester dans la fiction.
Ceci dit, on la connaît, l'adresse de la maison. Si vous êtes des touristes noirs, comme on dit, vous pouvez aller pas visiter la maison, mais vous pouvez la voir sur la rue en Californie. Je ne veux pas donner, mais l'adresse se trouve en ligne si vous savez où chercher.
Yes. Amenez votre Ouija.
Hey, merci beaucoup pour cette histoire, Simon.
Ça fait plaisir.
Très, très intriguant. Je pense que ça va donner le goût aux auditeurs et aux auditrices d'aller faire un petit tour et de rechercher ces photos-là. On va tenter, on dit toujours ça, mais souvent on oublie. On va tenter de
publier. Oui, je vais les mettre sur le site,
Oui, on va essayer de les mettre sur le site web, sur la page de l'épisode, en fait,
sur distorsionpodcast.com. Je les mettrai aussi sur Ars Moriendi. Je vais essayer de dispenser. Ça va sur
On va les mettre partout.
Donc, pour l'instant, on se dit adieu, mais on se revoit dans pas long pour l'after show, Simon.
Oui, exact.
Sinon, on encourage tout le monde à aller checker ton podcast Ars Moriendi, même si tu te fais attendre un petit peu. Il y a plein de contenu. Tu dois avoir au moins presque une centaine d'épisodes, en fait.
Moins que ça, parce que ce sont plus de travail que les vôtres. Là.
Qu'est-ce que tu veux
c'est
dire?
Pas une critique, mais vous en avez plus. Moi, j'en ai un peu moins. Là. J'ai 49 épisodes disponibles, mais il y a l'équivalent en bonus. Il y a plein de surprises, des des bonus sur Patreon aussi. Si vous ennuyez de ma voix, vous en voulez plus, allez là, il y a plein d'histoires. Puis je vous promets, je reviens sous peu cet hiver. Mon livre se termine, je suis en train de l'achever. Et tout de suite après, je me relance dans une prochaine saison.
Oh yeah.
Oh yeah.
On va surveiller ça. Donc, merci à toi, Simon. Merci beaucoup. Merci
à vous
Seb aussi.
Oui, merci à toi, Émile.
Yeah. Et en fait, vous savez nous trouver, hein, les Distordus. On est partout. On est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, sur YouTube aussi, sur TikTok. Vous pouvez rejoindre notre Patreon, évidemment. On en parle souvent parce que grâce à ça, et on a aussi un serveur Discord où il y a plein de discussions intéressantes. Et on vous dit à la prochaine, tout le monde. C'est un épisode bonus, évidemment. Vous savez, il y en a qui disent, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir moins d'épisodes à cause qu'on fait le spécial Halloween? Non, en fait, c'est comme un 14e épisode qui s'inscrit dans la saison. Donc, on continue. On se revoit très bientôt, dans une semaine ou deux, en fait. Mais avant de quitter, Seb, on n'a pas le choix de remercier quelques membres Patreon. Je te laisse commencer.
Oh oui, un gros high-five à nos commanditaires. Maï, Mélanie R, Aurore P, la mystérieuse Sarah et Suzanne C.
Un gros shout-out à Abby, à Joanie C, à Fanny J, à Coralie et à Jean-Philippe T.
Gros, gros bisous à Catherine P, Stéphanie C, Christine R, Jennifer B et Maxime R.
Et aussi, un gros câlin à AW, à Viviane D, à Amanda J, à Élise C et à Camille A.
Je poursuis l'amour à Alexandrine C, Chloé, Angélique V, Catherine T et Lalou.
On ne pourrait faire ce show sans la contribution de Sarah D, Sarah Elisabeth, Karine B, Space Jockey et Amandine S.
On vous remercie Audrey L, Chloé M, Nicolas B, Sarah SPC et Mélina B.
Une bonne tape dans le dos à Catherine B, à Bénédicte B, à Ariane M, à Indeed, bien sûr, et à Crème Sûre et Grand-Mère Morte.
J'adore ce nom. Et je poursuis Annabelle Morceau, Marie-Gabrielle T, Pascal L, Gogo nos Soleils, Charlotte à toi, et Jeans R.
Et pour terminer, un gros remerciement à Emmanuel H, à François, Charlotte Frank, à Guillaume B, à Caroline H et à Chris l'Imparfaite.
Oh, merci à vous.
Ah ben moi, comme j'ai pas de shout-out, je vais simplement saluer au passage nos amis du podcast Captive qui viennent de publier leur premier livre. Félicitations les filles, j'ai très hâte de lire ça.
Oh oui, nous aussi, excellent shout-out.
Yes, merci tout le monde et on se dit à très bientôt.
Bye-bye.
Que vos nuits soient pleines de cauchemars terrifiants.